nous devons être foncièrement honnêtes avec nous-mêmes. Impitoyablement honnêtes avec nous-mêmes, parce que seule la vérité nous affranchira. Ne jouez pas le jeu du blâme. N'essayez pas de blâmer quelqu'un d'autre pour tout ce qui ne va pas dans votre vie.
Restez avec nous dans Jouissez de votre vie.
Qui ici pourrait profiter d'une crue de son niveau de joie? Je veux dire tout le temps, je ne cherche pas ces petits jaillissements de joie quand il arrive quelque chose qui me rend contente et gaie, mais je veux tressaillir de cette joie ineffable et glorieuse dont parle la Bible, quelles que soient les circonstances de ma vie, que je sois toujours enivrée de joie. Proverbe 15, verset 13 dit « Un cœur joyeux rend le visage serein ». Mais dans le chagrin, l'esprit est abattu. Vous avez avantage à garder votre esprit bien fort. Un esprit abattu, triste, un esprit chagriné, vous traîne et vous aspire dans la fosse. J'aime la parole que j'ai citée tout à l'heure, qui dit que l'esprit fort ou le moral de l'homme le soutient dans la maladie et les peines et les problèmes. Le psaume 5:11 dit « Et tous ceux qui t'ont pour refuge se réjouiront toujours, ils exulteront. » Donc, si l'on s'en remet à Dieu, on doit être heureux. Allez, comprenez ceci. Si l'on marche tout triste, déprimé et négatif, et on dit « Je m'en remets à Dieu », sûrement notre foi n'est pas en Dieu. Peut-être on essaye d'avoir confiance en Dieu, mais on ne s'en remet pas vraiment à Dieu parce que si notre foi est vraiment en Dieu, la Bible dit que nous devrons nous réjouir. Car quand nous nous fions à Dieu, nous aurons une attitude positive, que Dieu va certainement agir au sujet de notre problème, qu'il œuvre en nous en ce moment même, qu'il effectue des changements. Psaume 5:11, « Tous ceux qui t'ont pour refuge se réjouissent toujours, ils exultent. Car tu les abrites et tu les défends, ils auront de l'allégresse. Tu fais crier de joie ceux qui aiment ton nom et tu les enivreras de ton esprit. » J'ai mis entre parenthèses de bonne humeur. Que signifie avoir de l'allégresse? Ça veut dire être de bonne humeur. Si vous êtes de tempérament volage, sujet à des sautes d'humeur, un jour vous avez le moral, le jour suivant vous ne l'avez pas, ou le matin vous êtes de bonne humeur, l'après-midi non. Si votre degré de joie est fondé sur ce qui se passe dans votre vie, alors je vous dis, franchement, vous devez faire un changement. Je ne sais pas s'il y a plus grande misère que de vivre avec quelqu'un d'humeur changeante. Allons, je n'essaye pas de vous froisser, j'essaye d'améliorer vos rapports. Ce n'est vraiment pas juste d'infliger vos perpétuelles sautes d'humeur à quelqu'un d'autre. Mon mari est stable et jusqu'à ce que... j'ai fait un engagement complet et réel à Dieu. J'avais le moral aléatoire, haut et bas, et ma joie était complètement fondée sur ce qui se passait dans ma vie. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont constaté cette même chose avant de rencontrer Jésus, et peut-être même combattez-vous toujours cette tendance, que certains ont une vraie dépendance à leurs émotions, et tout est fondé sur leurs sentiments. Je reconnais que ce serait beaucoup mieux si l'on se sent heureux, mais même si l'on ne se sent pas heureux, on peut décider d'être heureux. Une première chose qui aide le moral, que vous le croyez ou pas, c'est de sourire intentionnellement. Je dis la vérité. Si vous souriez, alors vous vous sentez allégé. Lorsqu'on sourit, on voudra se tenir plus droit. Allez-y, donnez-moi un mauvais froncement de sourcil, le pire qui soit. Ne vous sentez-vous pas... Maintenant, souriez très large. On se sent mieux... quand on sourit. Je pense que le sourire est l'interrupteur qui allume la joie du Seigneur qui se trouve dans chaque croyant. M'avez-vous entendu? Vous pouvez sourire intentionnellement. Vous n'avez pas besoin d'en avoir envie. Vous tous qui regardez la télé, jouez mon jeu aussi. Allez, souriez. Là où vous êtes, peut-être chez vous, dans votre salle de séjour, à regarder ce programme. Donnez-moi un sourire. Vous serez surpris. Si vous allez vous regarder dans le miroir et sourire, vous pouvez même rire. Tout cela semble bien amusant et drôle, mais je suis sérieuse. Je crois réellement qu'un sourire est un combat. Je crois que Dieu est concerné par les airs qu'on prend. Parce que peu importe la quantité de bonnes choses dans votre cœur, les gens ne peuvent pas regarder dans votre cœur. Ils voient seulement votre visage et votre langage corporel. C'est tout comme mon frère. Comment ça va? Ah, j'essaie d'endurer jusqu'à ce que Jésus revienne. Pourquoi je combattrai ce que vous avez si c'est la manière dont vous vous comportez? Qu'est-ce que ça peut me faire combien d'autocollants vous avez sur votre pare-choc et la grosseur de la Bible que vous emportez au travail? Ça ne m'impressionne pas si vous passez votre heure du déjeuner chaque jour à écouter des cassettes de Joyce Meyer. Ce que je veux voir, c'est... Êtes-vous serein? Êtes-vous joyeux? Votre vie porte-t-elle un bon fruit? Sourire! Je veux le répéter. Même si vous ne vous sentez pas très content, souriez exprès parce que je crois que c'est l'interrupteur qui commence à libérer cette joie qui est en vous. Parce que si Jésus est en vous, la joie est en vous. L'un des fruits de l'esprit est la joie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Vous avez la maîtrise de soi, que vous le sachiez ou non. Peut-être ne l'utilisez-vous pas, mais vous l'avez. Alors ils auront de l'allégresse, ce qui veut dire ils seront de bonne humeur. Et tu fais crier de joie à ceux qui aiment ton nom et non pas leurs circonstances. Dave m'a dit après que j'ai changé. Heureusement qu'il ne me l'a pas dit avant que j'ai changé, car mon humeur serait pire. Mais après qu'il ait commencé à voir un peu de bons fruits dans ma vie, il m'a dit, je me souviens quand je revenais du travail, quand pour rentrer le soir les premières années de notre mariage, je conduisais la voiture sur l'autoroute et je pensais, je me demande quelle sera son humeur ce soir. Parce qu'il ne savait jamais quand il rentrait par la porte, ce que ça allait être, si j'allais me jeter à son cou et l'embrasser, ou commencer à grommeler. Je regarde en arrière maintenant et je réalise, quelle misère ça a dû être pour Dave de vivre avec moi ces premières années. Je suis désolée d'avoir permis à mes humeurs de me contrôler. Mais vous savez, je n'avais personne pour me dire ce que je vous dis aujourd'hui. C'est un avantage d'avoir quelqu'un qui a eu cette expérience et qui peut nous parler de ses fautes et nous aider à les éviter. Je ne savais pas que je pouvais sourire, que j'en ai envie ou non. Je ne savais pas que juste parce que je me sentais déprimée, ça ne voulait pas dire que je devais être déprimée. Je ne connaissais pas Ésaïe 61 qui nous dit de mettre un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Mettre exige une action de ma part. Mettre, ça ne dit pas que ça va nous tomber dessus. Ça dit mettre. Ainsi, quand vous vous sentez affligée et déprimée, chantez, vous dites « je n'ai pas envie de chanter ». Puis-je vous dire quelque chose? Plus on suit nos sentiments, plus on peut écrire fiasco au travers de nos vies. Parce que les sentiments sont volages. Tantôt ils se sentent bien et tantôt mal. Des fois ils vous aident et d'autres fois ils vous nuisent. Parfois ils ont envie d'aller au travail et parfois ils ont envie de rester au lit. Parfois ils ont envie de faire le ménage. Parfois ils ont envie de dépenser l'argent qu'ils n'ont pas. Ils ont souvent envie de manger des choses dont nous n'avons pas besoin. Allez maintenant. On ne peut pas vivre par les sentiments. On peut éprouver 10 000 sentiments différents, contradictoires, concernant le même sujet. Je sens que je t'aime, je sens que non. J'ai l'impression que tu m'aimes, j'ai l'impression que non. On doit passer des sentiments à ce que nous savons. Suis-je impeccable à cela tout le temps? Non. Ai-je besoin de ce message aujourd'hui? Oui. La foi en Dieu devrait nous rendre joyeux et améliorer notre humeur. Allez au psaume 32. Une chose qui vole notre joie, c'est le péché caché. Certains d'entre vous ne vont peut-être jamais devenir heureux jusqu'à ce que vous fassiez repentance. Vous vous permettez peut-être certaines choses que vous savez au fond de vous-même qu'elles sont déplacées, mais vous ne vous en souciez pas. elles empoisonneront votre joie. David, le roi, était un homme remarquable et avait un rapport impressionnant avec Dieu. Mais il a fait certaines erreurs. Il a vu une femme, il est devenu émotionnel et a commis l'adultère. Elle est tombée enceinte, ainsi il a dû cacher son péché et a fait tuer son mari. Durant ces années après qu'il ait péché, il ne s'en est pas repenti ni inquiété devant Dieu. Il a juste essayé de l'ignorer. Avez-vous jamais été dans une situation où vous avez essayé d'ignorer votre péché? J'ai essayé d'ignorer pendant plusieurs années que j'étais une femme rebelle et disais toutes sortes de choses à mon mari qui étaient irrespectueuses et que je ne devrais pas dire. Et Dieu essayait de me réprouver, mais je lui donnais une excuse. Je disais, j'ai été abusée et j'ai beaucoup de difficultés avec l'autorité masculine. Quand Dieu essaye de nous réprouver, c'est surprenant de voir avec quelle vitesse on passe outre cette conviction avec des argumentations et on donne une excuse pourquoi c'est admissible pour nous de faire ce qu'on fait, bien qu'on sache que ça ne l'est pas, mais c'est admissible pour nous parce que je sais que je suis d'humeur irascible ce soir, mais j'ai eu une mauvaise journée au travail. Nous avons tous un sac d'excuses. C'est cette chose invisible que nous portons avec nous, et à chaque fois que Dieu essaye de nous réprouver, ou que d'autres gens essayent d'adresser un point délicat, nous sortons une excuse. Vous n'avez pas l'air enthousiaste aujourd'hui. Nous devons être foncièrement honnêtes avec nous-mêmes. Impitoyablement honnête avec nous-mêmes, parce que seule la vérité nous affranchira. Ne jouez pas le jeu du blâme. N'essayez pas de blâmer quelqu'un d'autre pour tout ce qui ne va pas dans votre vie. Soyez responsable, assumez la responsabilité. J'avais blâmé mon passé abusif pour ma mauvaise conduite, jusqu'à ce que Dieu m'a finalement éclairé sur le choix. Tu peux être pitoyable ou puissante, mais pas les deux. Oui, ce qui t'est arrivé, Joyce, ne devait pas t'arriver. C'était odieux, mais je suis disposée à te guérir si tu te conduis à ma façon. Si vous voulez que Dieu guérisse votre vie, cessez de parler du passé et commencez à parler de l'avenir. Vous devez oublier ce qui est en arrière et vous porter vers les bonnes choses qui sont en avant. Abandonnez le blâme. Vous voyez, j'étais ce que j'étais à cause de ce qui m'était arrivé. Mais j'ai dû assumer la responsabilité pour mes actions et dire « Voilà pourquoi je suis comme ça, mais je n'ai pas besoin de rester comme ça. Je peux m'améliorer, je peux devenir meilleur, je peux vaincre, mais j'ai dû prendre responsabilité pour ce que j'étais. J'étais chrétienne, mais je n'étais pas heureuse. J'étais chrétienne, mais je ne jouissais pas de la vie. J'étais chrétienne, mais je n'avais pas de grande quantité de paix. Je crois qu'il y a énormément de chrétiens malheureux. » Allez, j'ai dit qu'il y a énormément de chrétiens malheureux. Tout ce que vous devez faire est lire un petit peu la Bible. Nous devrions être les gens les plus heureux sur la face de la terre. Si ce n'est pour rien d'autre, vous devez être joyeux aujourd'hui parce que vous n'allez pas en enfer. Vous voyez, nous oublions les choses qui devraient nous rendre heureux et nous sommes trop préoccupés par nos circonstances. Lisez 2 Corinthiens chapitre 4 où Paul a dit, nous avons expérimenté ceci et cela, mais ça ne nous a pas volé notre joie. Nous avions faim, nous étions opprimés, nous avons été maltraités, battus et mis en prison. Mais ça ne nous a pas souciés. Il a dû voir quelque chose que la plupart ne voient pas. Paul a dit, réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps, je le répète, réjouissez-vous. Vous devriez savoir d'où il a écrit ça. Il était en prison. Nous avons visité la cellule où Paul était enfermé. Sauf que lorsqu'il y était, le réseau d'égouts de la ville passait par sa cellule. Et ainsi, pour vous le traduire clairement, il a dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. » Je le répète, « Réjouissez-vous » quand il était debout dans les égouts jusqu'aux genoux ou même plus haut. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai encore une longue route à faire. « Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps. Réjouissez-vous. » Dans le psaume 32:11, le roi David a prié ceci. Juste, vous qui êtes intègre et droit devant Dieu, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droit de cœur. Regardez comment ce psaume a commencé. David était dans une détresse lamentable. Il ne s'était pas encore repenti de ses péchés avec Bathsheba. Il ne s'était pas encore repenti du meurtre d'Uri. Et il dit plutôt dans le psaume 32:3, « Tant que je me suis tue avant de confesser mon péché, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. » Verset 4, « Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Pensez à cela calmement. Verset 5, « Je t'ai avoué mon péché et te l'ai fait connaître. Je n'ai pas caché mon iniquité et mon tort. » J'ai dit, je confesserai mon péché et mes offenses au Seigneur Dieu. J'étalerai sans cesse mon passé jusqu'à ce que tout soit éclairé. Et toi, tu as immédiatement effacé la peine et le poids de mon péché et tu as absous mon tort. Posez et pensez-y calmement. Verset 6. Ainsi que tout homme pieux te prie au temps convenable, au jour où il te rencontre. Que viennent à déborder les grandes eaux. Que viennent à déborder les grandes eaux, elles n'atteindront nullement l'esprit de cet homme. Nous devons ne pas être tristes et avoir l'esprit abattu. La Bible dit, si vous dissimulez le péché dans votre cœur et vous continuez à faire des choses que Dieu vous montre clairement de ne pas faire, il ne sert à rien de dire que vous n'y pouvez rien, car honnêtement, mes frères et sœurs, quand Dieu nous en convainc, par notre conscience, il nous a déjà donné le pouvoir d'y renoncer et de les surmonter. C'est pourquoi on ne peut pas dire « Dieu, je ne peux pas encore m'en dégager, je ne suis pas encore prêt, c'est trop ». Parce qu'en réalité, si nous n'étions vraiment pas prêts, le Seigneur ne nous l'aurait pas encore révélé. Dieu ne va pas me montrer mon péché et se tenir à l'écart et rire parce que je n'y peux rien. S'il me révèle quelque chose, il me donne aussi le pouvoir de faire ce qu'il me demande de faire. C'est une question de volonté. Parfois je sais ce que Dieu dit, mais je ne suis pas encore consentante. Donc Dieu doit recommencer plusieurs fois incessamment au même sujet et c'est souvent question d'une attitude. Qui d'entre vous a des attitudes dont Dieu vous parle? 20% de la foule, je ne le crois pas. Allez, ne soyez pas mous. Combien d'entre vous ont des attitudes dont Dieu vous convainc? Des attitudes égoïstes, de mauvaises attitudes, des attitudes amères, des attitudes impitoyables, des attitudes cupides, des attitudes jalouses. Une attitude de pauvre moi, une attitude grincheuse, une attitude grognonne. On pourrait lever la main pour chacune d'entre elles. Nous pourrions continuer avec ça toute la journée. J'aime vraiment ce psaume parce que David souffrait. Il dit « Mes os se consumaient à rugir tout le jour. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je suis desséché, je suis misérable, je n'ai aucune joie. Je t'ai avoué mon péché et te l'ai fait connaître. » Je n'ai point caché mon tort, j'ai tout dit jusqu'à ce que tout soit manifeste. Alors il a commencé à se raviver, et puis à la fin du psaume, il parle de la joie et de la réjouissance. Vous n'allez pas retrouver votre joie si vous n'êtes pas sincère devant Dieu. Si vous avez un esprit affligé, et quoi que vous fassiez, vous ne semblez pas pouvoir vous en débarrasser, vous devez passer un peu de temps supplémentaire avec Dieu et dire, « Y a-t-il quelque chose que j'ai fait que je dois voir? Quelque chose dont je dois te parler? » Parce qu'on tombe si vite dans le péché qu'on ne se rend même pas compte de ce qu'on a fait, et occasionnellement Dieu nous montrera quelque chose. Une nuit, je n'arrivais pas à m'endormir, ce qui n'est pas de coutume, et je me réveillais presque toutes les heures, à chaque heure. Finalement, vers 5 heures du matin, et comme j'aurais voulu avoir assez d'esprit et l'avoir fait à minuit, mais à 5 heures du matin, j'ai dit, « Éternel, qu'est-ce qui ne va pas en moi ?» Et immédiatement, Dieu a ramené à ma mémoire ce que j'avais dit sur quelqu'un ce jour-là qui n'était pas gentil du tout, une remarque superflue. Et ça tracassait vraiment mon esprit, bien que je ne l'admettais pas ouvertement. Ça dérangeait mon esprit. Et quand Dieu me l'a montré, j'ai dit, « Tu as raison, Seigneur, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Savez-vous ce que Dieu m'a montré? Si je veux avoir son onction sur mes lèvres, je ne peux pas permettre que de méchantes paroles sortent de ma bouche quand personne ne regarde, et puis prêcher ici en espérant avoir une puissante onction. Donc je dois être vraiment responsable de mes paroles. Si vous voulez ruiner votre joie, vous n'avez qu'à passer la journée à faire des commérages. » Bonjour, je parle à certains d'entre vous. J'ai dit, si vous voulez ruiner votre joie, vous n'avez qu'à passer la journée à potiner. Ou si vous voulez vraiment être malheureux, je vais vous dire comment vous pouvez l'être vraiment. Passez toute la journée à grogner et à vous plaindre. Le savez-vous, nous voulons être heureux, mais notre manque de joie est largement de notre propre faute. Amen. Amen. Il y a grand nombre de références bibliques qui indiquent que les croyants doivent se réjouir. Soyez heureux. Laissez votre mine ou votre visage montrer votre joie. On a le devoir de nous réjouir, qu'on le sente ou non, car je pense que cela, plus que toute autre chose, renforce ou nuit à notre témoignage aux autres. Personne ne désire plus de tristesse, ils en ont déjà assez. Allez à Néhémie 8, verset 10. Vous êtes familier avec cette parole qui dit « La joie de l'Éternel est votre force. » La joie de l'Éternel est votre force. Souvent, quand Satan fait quelque chose qui vole notre joie, ce n'est pas vraiment notre joie qu'il vise, mais notre force. Il ne veut pas que nous soyons forts, il veut que nous soyons impuissants. Quand vous êtes affligé et déprimé, vous ne voulez pas prier. Vous ne voulez pas être une bénédiction aux autres, ni aller à l'église, vous ne voulez pas respecter vos engagements. Quand nous sommes tristes et abattus, nous voulons juste nous apitoyer sur notre sort et être déprimés. Néhémie 8:10. Alors Ezra leur a dit, « Allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est saint et consacré à notre Seigneur, et ne vous affligez pas et ne vous attristez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, « Taisez-vous, car ce jour est saint. Ne vous affligez pas, ne vous attristez pas. » Qu'est-ce que David a dit? C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Chaque jour est un jour que Dieu nous donne, et c'est un jour qui est consacré à l'Éternel. Ce prophète dit, ce jour est consacré au Seigneur, ainsi voilà ce qu'il vous faut faire. Mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux. Nous ne sommes pas intéressés à manger le gras ou boire nécessairement ce qui est doux, mais il y a là un but différent. Il dit, mangez, buvez, soyez joyeux. Il dit essentiellement, jouissez de votre vie. Une des façons dans l'Ancien Testament de dire aux gens, de les inciter et de les pousser à aller festoyer, à être joyeux, à s'amuser, à faire la fête, c'était de leur dire, mangez du gras et buvez ce qui est doux. Nous avons intitulé notre enseignement « La charge de joie » et vous pourriez vous demander, pourquoi donc suis-je chargé d'être joyeux? N'est-ce pas mon choix si je veux être joyeux ou pas? D'un côté oui, mais de l'autre côté non, parce qu'en réalité, si vous voulez vraiment être un ambassadeur de Jésus-Christ ou bien son représentant ici sur terre, alors vous avez vraiment le devoir d'être joyeux parce que les autres vous observent. La Bible dit que nous devons être sel et lumière. Lorsque les gens sourient et sont joyeux, c'est comme allumer la lumière dans les ténèbres. Je crois aussi que si on veut être sel, ce qui veut dire rendre quelqu'un d'autre désireux de ce que nous avons, alors nous devons exprimer de la joie dans notre vie quotidienne. Jésus est mort pour que nous ayons la vie et nous en réjouir. Et nous devons exprimer cette joie, ce qui va aider d'autres à vouloir entrer dans le royaume et connaître notre Sauveur.
Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.